Bonsoir. Ce n'est pas un écrivain, mais une légende qui fait son entrée dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Joseph Kessel, l'inclassable journaliste romancier, témoin engagé de la marche du monde, baroudeur et membre de l'Académie française, rejoint à quelques mois d'intervalle son ami Romain Gary au Panthéon de la littérature. Grand reporter aux confins du monde, Joseph Kessel a écrit des dizaines de romans à succès, parmi lesquels L'équipage, Le Lion, Belle de jour et encore Les Cavaliers. Engagé volontaire pendant la Première Guerre mondiale, il sort décoré de la Seconde pour sa bravoure dans la Résistance. Russe d'origine, il écrit le chant des partisans en Angleterre avant d'être célébré en académicien à Paris. Né en 1898, Kessel passe son enfant entre une colonie juive de la Pampa en Argentine, dans la ville de Rios, et une capitale cosaque d'où sa mère est originaire, à Orenbourg. Arrivé en France à l'âge de 10 ans, apprenti comédien sur les planches de l'Odéon pendant son adolescence, il finance ses études au conservatoire par des piges pour la presse. À 18 ans, il s'engage dans l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. C'est là, dira-t-il, que sa vraie aventure commencera, là où il a appris la camaraderie de vie et de mort et l'extraordinaire fraternité de l'équipage. Jeune soldat, il est enrôlé dans un tour du monde, de Brest à Vladivostok, via San Francisco. C'est là-bas qu'il découvre les beuveries, le poker et les femmes. Il y croise dans la foule des personnages qui le fascinent et peupleront l'ensemble de ses textes. Grand reporter, Joseph Kessel couvre les conflits du siècle, l'Irlande du Nord, Espagne, mais aussi la résistance auprès de l'armée des ombres. Il est aussi présent auprès des esclaves d'Abyssinie, dans le jeune État d'Israël dont il obtient le premier visa. Ami des patrons de presse comme Pierre Lazareff et de grands éditeurs comme Gaston Gallimard, Joseph Kessel puise dans ses reportages la matière de récits et de contes adaptés en romans, puis souvent réadaptés en films. Même Le Lion, l'un de ses plus grands succès, est une histoire d'amitié entre une petite fille et un lion, épuisé de son expérience au Kenya. Joseph Kessel fut un homme libre, pressé, excessif, intimidant, sincère, fraternel, aussi tourmenté que le siècle dans lequel il vécut. Sa vie aventureuse, souvent héroïque, fait corps avec son œuvre. François Mauriac, dans son bloc-notes, résume ainsi sa vie. Il est de ces êtres à qui tout excès aura été permis, et d'abord dans la témérité du soldat et du résistant, et qui aura gagné l'univers sans avoir perdu son âme. Pour nous accompagner ce soir, durant cette heure, autour de Joseph Kessel, nous avons le plaisir d'accueillir à la librairie Mola M. Philippe Baudor, professeur émérite de lettres modernes à l'université Bordeaux-Montaigne. Philippe Baudor, vous êtes spécialiste de la littérature du XXe siècle et plus précisément des écrivains de la Première Guerre mondiale et des représentations littéraires de la guerre. Vous êtes par ailleurs vice-président du Centre François Mauriac de Malaga. Et donc vous avez participé à l'élaboration de cette édition en deux volumes des œuvres de Joseph Kessel, sous la direction de Serge Linkès et en compagnie de Marie-Astrid Charlier, Yvan Daniel, Pascal Guénaud, Christian Manceau, Thierry Oswald, Camille Panier et Dolores Tion-Soriano Mola. Ces deux volumes de 3776 pages comprennent L'équipage, Marie de Cork, Macno et sa juive, Les captifs, Belle de jour, Vent de sable, Marché d'esclaves, Fortune carrée, Au grand Soco, La piste fauve, La vallée des rubis, Hong Kong et Macao, Le Lion et enfin Les Cavaliers, le tout agrémenté, bien sûr, d'articles et de nouvelles. Ma première question pour entamer cette rencontre, Philippe Baudor, avant de revenir sur la longue carrière de Joseph Kessel et pour pasticher la formule de Luc Lagier, pouvez-vous répondre à cette petite question ? C'est qui, ou plutôt c'est quoi pour vous, Joseph Kessel ?
C'est quoi pour moi, Joseph Kessel ? Peut-être que pour moi, Joseph Kessel, ça a d'abord été, je dirais, comme pour beaucoup de gens peut-être, une silhouette, une carrure, une voix, dans la mesure où Kessel était très présente dans le paysage, je dirais, social et dans le monde de l'audiovisuel quand j'étais jeune et adolescent. On le voyait beaucoup à la télévision dans les années 60-70, donc c'est quelqu'un qui faisait partie du paysage. Mais par la suite, pour quelqu'un qui s'intéressait à la littérature ou qui faisait des études de lettres, c'était pas forcément vers l'œuvre de Kessel qu'on nous dirigeait dans une époque où on était surtout, je dirais, très, très, très attentif et très soucieux de modernité littéraire, de théorie littéraire, de reconstruction des modèles littéraires, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup lu Kessel quand j'étais étudiant, d'autant que par la suite, dans mes études doctorales, je me suis intéressé à l'engagement politique des écrivains, donc je n'ai pas forcément beaucoup retrouvé Kessel sur ce terrain-là. Par contre, vous l'avez dit, m'intéressant à Mauriac et étant rapproché du centre Mauriac de l'université Bordeaux-Montaigne, je me suis beaucoup intéressé à travers Mauriac, avec mes collègues, aux relations entre littérature et journalisme au XXe siècle. Et à ce moment-là, bien évidemment, Kessel est aussitôt apparu dans le paysage parce que c'est la grande figure qui va réunir à la fois l'œuvre littéraire et l'œuvre de journaliste et l'œuvre de reporter. Alors, il n'était pas le seul, bien sûr, à nous intéresser à ce moment-là. Il y avait Colette, il y avait Camus, il y avait Bernanos autour de Mauriac et de Kessel. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai mis au programme des œuvres de Kessel, notamment ses reportages, tels qu'il les avait repris dans Témoins parmi les hommes. Et à partir de là, je me suis beaucoup intéressé à son œuvre. Et c'est finalement par le reportage et par le journalisme que je suis venu ensuite à m'intéresser, dirigeant des travaux d'étudiants, à ses romans aussi.
Alors, un an après Romain Gary, Joseph Kessel fait donc son entrée dans la Pléiade. À cette occasion, je tenais à rappeler aux gens qui nous regardent ce soir que un album Kessel a été réalisé pour la Quinzaine. Album Kessel réalisé par Gilles Ray, qui avait fait l'édition Un Quarto, qui sera donc offert par la librairie pour l'achat de 3 volumes en Pléiade jusqu'à épuisement des stocks. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet de publier enfin une sélection d'œuvres de Kessel?
Oui, j'aime bien votre « enfin », hein, ce qui traduit une attente. Et c'est vrai que cet « enfin » et cette attente, on les entend beaucoup dans la couverture médiatique qui accompagne cette sortie. Donc c'est plutôt rassurant pour ceux qui se sont consacrés à ce projet. Alors la décision, comme vous le savez, le circuit de décision pour une Pléiade, il est court, il n'est pas très compliqué. C'est Antoine Gallimard qui prend la décision. Hein, donc, et c'est lui qui est le maître d'œuvre, c'est lui qui décide qu'un auteur va entrer dans la Pléiade. Alors, pour d'autres auteurs, je ne sais pas quel a été le circuit. Bien évidemment, l'équipe de la Pléiade et Hugues Pradier font des propositions, Antoine Gallimard qui décide. En ce qui nous concerne, pour Kessel, c'est parti d'un projet partagé avec une équipe qui est en gros le noyau, hein, qui s'est retrouvé autour de l'élaboration de cette édition. C'est un projet qui est né autour de l'Université de La Rochelle, de Serge Linkès qui y travaille, d'Yvan Daniel, de Pascal Génaud, et du fonds de manuscrits qui est déposé à La Rochelle. Et il nous semblait qu'il y avait là un fonds de manuscrits considérable. Il y a quasiment tous les manuscrits de Kessel, avec de nombreux documents complémentaires qui sont conservés à l'Université de La Rochelle, qui ne sont pas accessibles au public, hein, mais qui sont là. Et donc, il nous semblait très très intéressant de les exploiter, de les valoriser. Et parmi les pistes possibles, il y avait une Pléiade. Donc bon, on a lancé cette idée, mais un petit peu comme on jette une bouteille à la mer, en se demandant si effectivement ça avait une chance d'aboutir. Kessel était déjà très bien servi, beaucoup de ses ouvrages sont en livre de poche, en folio. Il y avait un beau quarto qui était sorti quelques années auparavant. Mais il est probable que l'idée était déjà présente au cœur de la maison Gallimard, parce que la réponse a été très rapide, et très rapidement, donc, l'accord s'est fait. Et la demande a été d'ailleurs extrêmement forte, puisqu'il a fallu travailler très vite et se mettre tout de suite au travail pour sortir dans des délais relativement brefs, d'ailleurs, cette Pléiade. Donc, vous voyez, c'est un projet autour d'une équipe, projet collectif, et puis surtout autour de ce fonds de manuscrits qui est au cœur, quelque part aussi, de cette Pléiade.
Alors, parlons-en justement de ce fonds de manuscrits. Comment la majorité, en fait, des manuscrits de Kessel se sont retrouvés à La Rochelle?
Oui, on peut se demander, hein, le lien entre Kessel et La Rochelle, comment les manuscrits se sont retrouvés là. Bon, c'est une histoire relativement ancienne, mais en même temps, bon, tout à fait humaine. Hein, il y a toujours de l'humain dans ces histoires-là. J'ai cité le nom de Pascal Génaud, et je crois qu'il faut lui rendre hommage, hein, parce que c'est un étudiant dont j'ai dirigé la thèse. J'évoquais l'époque où j'avais mis un certain nombre de textes de Kessel au programme des séminaires de maîtrise ou DEA. Pascal Génaud a fait sous ma direction une thèse qu'il avait consacrée à Kessel et qui est intéressante parce que son sujet était déjà de mettre en relation les reportages de Kessel et l'écriture de fiction de Kessel, d'observer le tissage entre les deux. Et au cours de cette thèse, il a enquêté, il a cherché, et il a retrouvé les manuscrits de Kessel qui étaient confiés par Kessel lui-même, hein, à la garde, à la protection d'un notaire à Paris. Les manuscrits étaient conservés dans les caves, dans les coffres d'une banque. Hein, et Pascal a pu consulter ces manuscrits. Il a ensuite beaucoup travaillé lui-même sur Kessel, animé des colloques, organisé tout un travail de recherche sur Kessel, publié des inédits. Et puis, au décès du dépositaire légal, ou en tout cas du protecteur légal de ces manuscrits-là, c'est Pascal Génot qui est devenu le dépositaire officiel, le gardien officiel de ces manuscrits. Et donc, il les a rapprochés de l'Université de La Rochelle. Et bien sûr, le projet a été de continuer, dans la mesure du possible, à les valoriser, à les exploiter, à les mettre au service du public. Cette Pléiade en est une consécration particulièrement forte.
Comment, parmi les 80 œuvres environ qui constituent le corpus, hein, entre les romans, les récits, les documentaires, les reportages, comment s'est opérée cette sélection ?
Alors, la demande de Gallimard était claire au départ, c'était deux volumes. Donc il y avait une commande très très précise. Deux volumes, cela signifie à peu près 4000 pages, un peu moins de 4000 pages. Donc il est clair qu'il fallait faire des choix. C'était pas du tout question de partir sur une édition exhaustive de l'œuvre de Kessel, hein, qui est monumentale. Donc il fallait faire une sélection. Alors, deux, trois principes, hein, ont guidé au départ le choix, encore une fois, qui est fait aussi, et d'abord par la maison Gallimard et par l'équipe de la Pléiade, mais parmi les critères retenus, d'abord, et c'est une question qui nous est souvent posée là depuis quelques jours, depuis que cette édition est sortie, il fallait régler le sort d'une production monumentale de Kessel, production romanesque très très importante, qui est Le Tour du Malheur. En 1950, Kessel publie une somme romanesque considérable, 4 volumes, dont 1600 pages, si vous voulez, très importante, à laquelle il a beaucoup travaillé et à laquelle il tient beaucoup aussi, hein, et dont il aurait voulu, bien sûr, qu'il y ait une consécration forte. On ne pouvait pas garder, hein, Le Tour du Malheur, donc ça, c'était le premier choix. Ça aurait été un volume entier de la Pléiade, donc c'était le choix de l'écarter. Malheureusement, je dirais. Deuxième choix très très important, qui peut paraître naturel pour Kessel, qui est peut-être pas si naturel que cela pour la Pléiade, ou en tout cas pour l'idée que l'on s'en fait, c'était de très fortement associer dans cette édition ce qui relevait de la fiction et ce qui relevait de la non-fiction, les romans et les reportages, dans la mesure où chez Kessel, les deux sont profondément imbriqués. Ce n'est pas question du tout de les dissocier. Donc les reportages devaient être bien sûr conservés, associés et liés aux textes de romans et aux textes de fiction. La raison pour laquelle on retrouve, hein, quelques-uns des massifs très très importants, par exemple autour des années 30, Marché d'esclaves, hein, qui est une enquête très 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 importante sur la piste des trafiquants d'esclaves, hein, que Kessel fait pour Le Matin, qui est sa première grande consécration de reporter à l'époque. Et puis Fortune Carrée, qui est le roman qui va se nourrir, je dirais, de tout ce que Kessel a pu recueillir au cours de cette enquête, va se trouver associé. On a un petit peu plus tard, dans les années 50, La Piste Fauve, qui est l'ensemble des grands reportages qu'il fait en Afrique centrale, au Kenya, autour de la révolte des Momo, et puis ensuite tout le voyage qu'il fait dans la réserve d'Ambosélie, qui va donner naissance au roman Le Lion. Hein. Donc il y avait ainsi, je dirais, des grands massifs que l'on devait retrouver, deux bornes assez naturelles, l'équipage au départ et les cavaliers à l'arrivée. Et cela laissait quand même pas mal de latitude, hein, pour faire un certain nombre de choix. Il a fallu abandonner un certain nombre de reportages, en conserver quelques-uns, par exemple Hong Kong et Macao ou la Vallée des Rubis dans les années 50. Et pour les romans, c'est la même chose. Hein. Il a fallu en abandonner aussi un certain nombre, en garder d'autres. Alors, on peut avoir des regrets. Hein. Je disais dans le Figaro que Eric Fotorino, par exemple, disait que son œuvre de Kessel préférée, c'était Les Mains du Miracle. Hein. Bon, on n'a pas pu garder Les Mains du Miracle. Donc, bon, ce sont des choix, bien évidemment, qui ont été faits. Mais toujours avec cette idée, quand même, d'avoir une forte cohérence dans l'ensemble et, je dirais, de parcourir pas forcément tout le spectre des pays, des continents sur lesquels Kessel a pu travailler, auxquels il s'est intéressé, mais d'en représenter la plupart, et puis d'avoir un bon équilibrage, je dirais aussi, de sa production entre, en gros, hein, l'avant-guerre et la Seconde Guerre mondiale qui est dans le premier volume et l'après-guerre qui est dans le second volume. Voilà comment ce choix s'est fait. C'est jamais un choix totalement satisfaisant, je dirais, puisque il y a toujours le regret de ne pas conserver telle ou telle œuvre. Mais on a quand même gardé quelques textes moins connus. Et puis on a quand même aussi, c'est le souhait de la Pléiade, ça fait partie de l'identité de cette collection. On a accompagné les textes d'un certain nombre de documents, articles de presse, inédits, interviews, qui viennent, je dirais, habiller un petit peu l'association des romans, mettre un petit peu de lien dans cette édition pour en faire une édition représentative de l'ensemble de la production de Kessel. En tout cas, je l'espère.
Comment vous êtes-vous, vous et vos confrères, attribuer les œuvres entre chaque participant? Là, c'est de la cuisine interne, mais je trouve ça...
Oui, ça s'est fait, on ne s'est pas battu, hein, on n'a pas tiré au sort. C'est Serge Linkès et Hugues Pradier qui ont présidé à tout ça. Ça s'est fait de manière très équilibrée et très consensuelle. Et je dirais que c'est d'ailleurs dans cet esprit que le groupe a vraiment travaillé. Je ne sais pas comment sont faits les autres volumes de la Pléiade. Il se trouve que là, il y a vraiment eu un travail collectif très, très, très bien drivé, mené, je dirais, par Serge Linkès. On a eu beaucoup de réunions. On a eu un travail d'échange et de collaboration très, 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 très fort, hein, très régulier tout au long de ce travail, dans la mesure où l'objectif était de donner un esprit général, d'avoir une certaine uniformité à l'ensemble des notices et à l'ensemble des notes. Donc, le travail de répartition, c'est très bien fait. Je vous dirais que, bon, en même temps, moi, j'ai travaillé sur deux romans de Kessel. Si ce n'avait pas été ces deux-là, ça aurait été deux autres, et je pense que je m'y serais très, très bien retrouvé aussi. Donc, pas eu vraiment de déchirement.
Alors, c'était l'un des grands absents de la collection, ce qui est assez surprenant, puisque, bon, à la NRF, Gaston Gallimard a cru très, très tôt en Joseph Kessel. Kessel a eu un succès considérable de son vivant, un succès qui se poursuit après sa mort. Il est toujours lu encore aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que Kessel est inclassable? Est-ce que c'est parce que c'est à la fois un romancier, un reporter? Est-ce que c'est parce qu'il a eu beaucoup de succès de son vivant, et ce, dès le début de sa carrière d'écrivain?
Alors, dans la mesure où, comme on le disait, le choix de publication, le choix d'entrée, je dirais presque l'intronisation dans la Pléiade, parce que c'est quand même un geste fort, hein, que d'entrer dans la Pléiade, hein, dépend de la maison Gallimard et d'Antoine Gallimard. C'est très difficile de savoir pourquoi maintenant, pourquoi pas avant, hein. Il est probable que l'idée mûrissait déjà chez Gallimard, puisque la proposition a été tout de suite entendue et relayée. Ce qu'on peut dire, en tout cas, en observant que cette entrée dans la Pléiade se fait aujourd'hui, et qu'elle est bien reçue, hein, parce que tout à l'heure, vous disiez « enfin ». Oui. Hein, bon, parfois, on pourrait dire « ah bon, déjà ?» ou bien on pourrait dire « ah oui, vraiment, vous croyez ?» Bon, etc. Pas du tout. Hein, donc, c'est vrai que c'était aussi le bon moment, hein, pour y entrer. Je ne dis pas qu'il y a 10 ans ou 15 ans, ça n'aurait pas été le bon moment. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, ça me semble aussi le bon moment pour différentes raisons. Bon, c'est vrai que Kessel est un auteur Gallimard, vous l'avez dit, soutenu par les différents patrons de la maison Gallimard depuis le début, jouissant d'une notoriété tout à fait importante et d'un succès public non moins important. Tout cela était un élément très important quand même pour une collection, une maison qui obéissent quand même aussi à des contraintes éditoriales et commerciales fortes. Hein. C'est pas un jury d'honneur, hein, c'est pas un concours, hein, c'est pas un titre honorifique que d'entrer dans la Pléiade. C'est quand même une entreprise qui est une entreprise éditoriale et commerciale, donc il faut tenir compte de tout cela. Il me semble que, on l'évoquait tout à l'heure, il me semble que depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, un certain nombre de changements se sont produits peut-être dans l'image que l'on se fait de l'auteur, de la littérature et des processus, je dirais, de légitimité ou de légitimation des auteurs. Beaucoup de collègues, soit pour le 19e siècle, soit pour le 20e siècle, ont travaillé sur les rapports entre littérature et journalisme et ont, je dirais, contribué à extraire ou en tout cas à permettre à la production de presse d'entrer dans ce champ légitime de la littérature et de l'écriture. Petite anecdote, je ne sais pas si elle vous paraîtra significative, mais j'ai en mémoire une émission d'Apostrophe et de Bernard Pivot. C'était au moment de la sortie du dernier volume de la Pléiade, justement, de François Mauriac. Et l'éditeur de cette édition, Jacques Petit, était sur le plateau, et Bernard Pivot lui dit, parce que c'était un sujet qui était déjà, parce qu'il y avait Jean Lacouture qui était présent, bref, c'était un sujet qui était venu sur le devant du plateau, Bernard Pivot lui dit, et pourquoi pas alors, Jacques Petit, un bloc-notes dans la Pléiade? Et Jacques Petit dit, non, vous n'y pensez pas. Alors Bernard Pivot, taquin, lui dit, mais pourquoi, mais voyons, qu'est-ce qui empêcherait, etc. Et Jacques Petit répond, mais on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et je crois que cette distinction forte entre une production de presse, bon, éphémère, je dirais, de piètre qualité, hein, et puis une production littéraire, cette distinction, elle s'est petit à petit estompée. Il y a effectivement des serviettes de piètre qualité et de magnifiques torchons. Puis finalement, entre les torchons et les serviettes, on s'aperçoit que le tissage et que la continuité est quand même relativement forte. Je crois que tout ça peut contribuer aussi. En tout cas, on peut lire l'entrée de Kessel dans la Pléiade aujourd'hui comme une étape supplémentaire, hein, dans cette disparition d'un certain nombre de frontières entre des productions qui, jusqu'à présent, pouvaient être considérées comme incompatibles. En tout cas, Kessel est vraiment une des grandes figures, hein, pour contribuer à l'abolition de ces distinctions-là.
Alors, passons, si vous le voulez bien, justement, aux deux œuvres, hein, que vous avez étudiées, annotées, présentées dans cette édition Pléiade. Le premier, c'est Les Captifs, un roman publié en 1926 aux éditions Gallimard, qui a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française l'année d'après, qui a été publié, alors ça je l'ai appris en lisant justement vos notes, publié en trois livraisons dans la Revue des Deux Mondes au printemps 1926, et remanié évidemment pour les publications. Ce roman se déroule dans un sanatorium en Suisse, où les patients se retrouvent captifs de leur maladie, la tuberculose, dans les années 25-26, au moment où Kessel écrit donc son texte. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce roman de Kessel?
Oui, d'autant plus volontiers que c'est un roman de Kessel assez peu connu. Il fait finalement partie des romans autour desquels on aurait pu avoir un débat. Est-ce qu'on garde Les Captifs ou pas? Dans la mesure où bon, d'autres auraient pu paraître peut-être plus légitimes ou plus attendu, hein, dans cette édition de la Pléiade. Et c'est un roman sur lequel j'ai eu grand plaisir à travailler. Vous l'avez bien présenté. C'est un roman de l'enfermement. C'est un roman, ben, je dirais, c'est un roman du confinement, hein, puisqu'il se déroule entièrement à huis clos, dans un sanatorium. Hein. Ce qu'on peut dire, peut-être, c'est que c'est un roman qui, à la fois, traite d'un sujet qui est un sujet de société important à l'époque, la tuberculose, hein, qui est un sujet de santé publique. On s'intéresse beaucoup aujourd'hui aux questions de santé publique. On s'y intéressait déjà beaucoup à l'époque. Et la tuberculose, c'est quand même une grande question qui va dominer les questions de santé publique du 19e siècle, de la deuxième moitié du 19e et de la première moitié du 20e siècle. Donc ça, c'est un élément très, très important. Quand on regarde d'ailleurs la presse de l'époque, on s'aperçoit, je l'ai découvert en regardant les journaux, que la création d'un sanatorium, que l'inauguration d'un sanatorium pour les enfants, etc., etc., pour les soldats, c'est vraiment un sujet extrêmement présent dans la presse, donc qui préoccupe beaucoup, à la mesure où il y a énormément de personnes qui sont touchées, qui sont soignées. Donc, c'est un sujet vraiment social. Hein. Mais en même temps, pour Kessel, c'est un sujet qui le touche de très près, puisque Sandy, sa première épouse, est elle-même frappée par ce mal. Elle décédera d'ailleurs 2 ans après la publication du roman. Et Kessel lui rend visite dans le sanatorium de Lézé en Suisse, où elle est soignée à ce moment-là. Donc, c'est un roman qui s'ancre à la fois dans un contexte, un sujet social extrêmement fort auquel le public est très sensible, et dans une question biographique, un ancrage biographique auquel Kessel lui-même est très très sensible, et qui va lui permettre d'ailleurs une sorte d'observation de l'intérieur, hein, puisque il va séjourner auprès de son épouse à Lézin, il va observer, écouter, prendre des notes, regarder. Donc on est dans cette sorte de témoin, je dirais, parmi les hommes, hein, qui sera l'attitude de Kessel, et dont il va ensuite faire une sorte de transcription, de réécriture romanesque à travers ce roman du huis clos. C'est peut-être d'ailleurs parce que c'est un roman du huis clos qu'il a un peu disparu de la bibliographie, ou en tout cas de ce que l'on a retenu de la bibliographie de Kessel, parce que on associe assez peu Kessel à un auteur de huis clos. Hein. Bon, Kessel, ce sont effectivement la piste fauve, les grands espaces, Fortune carrée, etc., etc. Même si d'ailleurs il y a d'autres romans, je dirais les romans de garnison comme L'équipage, ou bien La Rose de Java qui se passe dans un bateau. On a quand même un certain Belle de Jour. Hein. Le lieu central de Belle de Jour, c'est une maison close. Hein. Donc en termes de huis clos, voilà. Donc il y a quand même cette problématique du confinement chez lui. Donc voilà, c'est un roman qui, d'ailleurs, c'est ainsi que un certain nombre de critiques de l'époque l'ont abordé, comme un roman de la tuberculose, hein, puisque de nombreux critiques se sont penchés sur cette question des rapports entre littérature et tuberculose dès la sortie, et c'est un sujet qui m'a moi aussi beaucoup intéressé pour écrire la notice, de replacer le roman de Kessel dans, je dirais pas cette tradition, parce qu'à l'époque elle est toute assez naissante, hein, mais en tout cas dans cette filiation des romans de la tuberculose. Il y en aura d'autres grands modèles par la suite. On pourrait citer la Montagne magique, par exemple, de Thomas Mann ou d'autres.
Quelle fut justement la réception critique de l'ouvrage ? Parce que Kessel avait déjà rencontré un succès populaire et critique avec L'équipage.
Oui.
Et là, il y a quand même une rupture, finalement, avec celui-ci.
Une rupture, je ne sais pas. C'est un roman qui se démarque peut-être plutôt de ce qui suivra que de ce qui précède. Il faut bien avouer d'ailleurs que ce qui précède est encore assez jeune, hein, puisque en 26, Kessel n'a que 28 ans. C'est vrai qu'il a connu un premier succès avec L'équipage, mais comme souvent en littérature, hein, vous le savez, un premier succès dont on dit à confirmer. Hein. On attend la confirmation. Alors à cette époque-là, Kessel est d'ailleurs... Il n'est pas encore reporter. Hein. Bon, il écrit beaucoup dans les journaux, des chroniques, mobilise surtout d'ailleurs à l'époque sa connaissance de la langue russe et de la culture russe. Il est surtout finalement consulté en tant que spécialiste de la question russe, qui est quand même très importante au début des années 20. Il a publié quelques nouvelles qui ont quand même fait parler de lui, notamment un certain nombre de nouvelles, là encore, en relation avec la Russie. Donc, c'est un roman que les critiques regardent comme est-ce une confirmation ou pas des promesses, finalement, que l'on avait pu sentir dans L'équipage. Et la plupart répondent oui. Hein, c'est un roman qui est bien reçu à l'époque, qui a un bon succès, un franc succès. La critique est relativement positive. Hein. Il y a, bon, quelques réserves émises ça et là, mais une critique d'ailleurs un peu partagée. C'est quand même assez intéressant. Une critique un petit peu partagée entre c'est un roman un peu documentaire sur la vie dans les sanatoriums, hein, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Hein. Je trouve que c'est un roman qui est plutôt bien documenté. Beaucoup plus que documentaire, on sent bien que c'est pas l'objectif premier. Et puis d'autres romans qui, s'appuyant sur le titre Les Captifs, hein, ils vont voir plutôt une sorte de roman métaphorique, hein, qui va interroger sur un roman de la condition humaine. Est-ce que le tuberculeux, le captif, le prisonnier du sanatorium, au fond, n'est pas une sorte de parabole ou de représentation de la condition humaine, donc en ferant une lecture peut-être plus poétique ou plus spirituelle. Très peu de temps après, Kessel se voit décerner le prix du roman de l'Académie française. Donc on est vraiment dans une période de consécration. Hein, voilà. Donc c'est plutôt une réception de confirmation qui va asseoir, je dirais, qui va contribuer à asseoir la naissante, hein, réputation littéraire et romanesque de Kessel.
Alors, vous évoquez le fait que Les Captifs étaient un roman documenté. Vous parliez aussi dans la notice que vous avez rédigée des Captifs comme un roman de conversion. Vous dites qu'il est à sa façon un roman du retour, comme Fin de Chérie de Colette, ou plus tard Gilles de Drieux-La Rochelle, ou même encore Aurélien d'Aragon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur cette notion de roman du retour ?
Oui, roman du retour, c'est encore une expression de Thibaudet. On emprunte toujours beaucoup à Thibaudet, qui a toujours de magnifiques formules. C'est un roman, c'est une expression qu'il utilise pour regrouper tous ces romans qui ne racontent pas la guerre, mais racontent le retour de la guerre. Il y en a un certain nombre dans les années 20. Vous avez cité La fin de Chérie, puis ensuite il y aura Aurélien. Il y a beaucoup qui ont disparu, je dirais, du paysage littéraire aujourd'hui. Et le héros principal des Captifs, Marc Tillet, est typiquement un homme marqué par la guerre. Alors, je veux dire, après, c'est un homme assez représentatif, d'ailleurs, d'une certaine conception du personnage romanesque des années 20. C'est un peu à la Morand, je dirais. C'est un homme pressé, passionné par l'automobile. C'est un homme qui n'a pas le temps, qui est très énergique, qui est un peu arrogant, qui est verrouillé de tous les côtés, qui se méfie de toutes les relations affectives. Très misogyne aussi, par ailleurs. Un personnage dont on sent qu'il a été blessé, marqué par la guerre, marqué aussi par un roman familial que Kessel, d'ailleurs, au travail. Vous évoquiez la première publication dans la Revue des Deux Mondes. Ensuite, lorsque le roman sort en volume, Kessel le complète un petit peu et réécrit le début. On a des manuscrits, c'est intéressant, pour renforcer un peu la dimension psychologique du personnage. Donc, ce personnage-là va subir effectivement une forte évolution au cours de son séjour au sanatorium de Lézin, enfin, dit le Pelvoux, puisque Kessel transpose bien sûr les noms de lieux. Alors, c'est assez classique dans les romans de la maladie d'y voir une sorte d'épreuve par laquelle un personnage va passer pour aller trouver au fond de lui-même, je dirais, une sorte de rebond, de délivrance ou de révélation. Suzanne Sontag, dans un très beau livre, La maladie comme métaphore, a beaucoup montré que la représentation de la maladie en littérature était souvent mise au service, effectivement, de cette révélation. Elle cite surtout la tuberculose et le cancer, on pourrait penser au sida, en tout cas, il y a toujours cette métaphorisation de la maladie, et c'est le cas pour lui. D'ailleurs, il est assez peu touché par la maladie, mais il est très touché, par contre, par ce qu'il voit autour de lui. Et ce qui m'a frappé, ce qui a retenu mon attention dans ce roman, c'est de voir l'évolution de ce personnage vers la fin. Alors, bon, pour ceux qui le liront, Pléiade, je dévoile pas, mais bon, il n'y a pas non plus un suspense absolument insoutenable, même si tous les romans de Kessel sont construits quand même sur cette attente du dénouement. Je crois que, quelle que soit l'histoire que Kessel raconte, il se débrouille toujours pour que la mécanique romanesque repose sur ce phénomène d'attente. Et donc, le personnage va être profondément touché par la maladie d'une très jeune fille, presque une enfant, dont il va s'occuper. Et là, brusquement, je dirais, toutes ses défenses, toute son arrogance, toute sa suffisance, toute sa confiance en lui vont s'effondrer. Et c'est une sorte de révélation et de conversion. Il y a une dimension profondément spirituelle dans ce roman, ce qui incite d'ailleurs à partir de la lecture. Ce qui est intéressant dans une édition comme celle de la Pléiade, c'est qu'on va passer de roman en roman et que ce que l'on aura décelé, la manière dont on aura construit sa lecture dans un roman, on sera tenté de la transposer dans les romans qui suivront. C'est intéressant de se demander si dans d'autres romans de Kessel, il n'y aura pas aussi cette représentation finalement d'un personnage en quête de lui-même, en quête d'une révélation, en quête d'un salut. Ce qui est le cas de Marc Tillet. Le roman se finit un peu comme ça. Il part avec cette jeune fille dont on devine qu'elle va mourir. Il est prêt à s'occuper d'elle. Il se trouve comme ça une sorte de renouveau spirituel chez lui. Et lui, on ne sait pas trop vers où il va, mais on sent qu'il va vers une autre vie qui s'est ouverte, comme si une porte s'ouvrait à ce moment-là. Et cette dimension spirituelle, elle est quand même intéressante, mais on la retrouvera dans d'autres romans de Kessel.
Lesquels, par exemple ?
Alors, si on parle des cavaliers, dont on pourra parler, on pourra également retrouver cette dimension-là, c'est-à-dire cette dimension d'une quête et d'une révélation profonde de soi. Cette manière qu'ont les personnages de Kessel aussi, mais je dirais que quelque part, dans Belle de Jour, avec peut-être beaucoup plus d'obscurité, de confusion et de difficulté, on a aussi affaire à un destin très singulier d'une femme qui est confrontée Ça, c'est vraiment aussi au cœur de nombreux romans de Kessel, qui est confronté à cette sorte de nœud intérieur, de souffrance intérieure, pour Belle de Jour, de traumatisme intérieur, qui la conduira sur un chemin qui est un chemin très douloureux souvent, mais qui est un chemin petit à petit qui tente d'aller vers une certaine lumière. Alors, les personnages y parviennent ou pas, c'est pas toujours une œuvre optimiste non plus qu'Essel, c'est pas toujours une œuvre aussi positive ou héroïque qu'on a bien voulu le dire.
Alors, comme vous évoquiez Belle de Jour, ce sera l'occasion d'évoquer aussi les adaptations cinématographiques des œuvres de Kessel. On évoquait le fait qu'il partait d'expériences personnelles, de reportages, de documentaires, pour ensuite les réadapter en romans. Et ces romans ont souvent, ça a été le cas notamment de Belle de Jour, du Lion, mais aussi encore des Cavaliers, d'être réadaptés au cinéma. Il y a quand même très peu d'auteurs, l'importance de Kessel, de sa carrure, qui ont eu qui n'ont pas à rougir des adaptations cinématographiques de leurs œuvres, qui sont devenues, dans un certain sens, des œuvres aussi importantes et dont même on a tendance à oublier qu'elles étaient des simples adaptations cinématographiques de romans. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces adaptations-là? Est-ce qu'il a toujours eu la main dessus? Est-ce que c'est des choses qui se passaient de manière totalement indépendante de sa volonté?
Alors, c'est vrai que vous avez raison de souligner que les liens entre les romans de Kessel et le cinéma sont des liens très très forts, je dirais plus généralement entre Kessel lui-même et le cinéma, puisque lui-même a collaboré aussi à des projets de films en tant que scénariste, dialoguiste, etc. Donc, bon, vous citez Belle de Jour, mais dès le premier roman de Kessel, L'Équipage, il y a une première adaptation cinématographique, et celle de Maurice Tourneur, qui est une adaptation en muette, puis ensuite il y en a une deuxième qui se fait d'Anatoly Dvak avec une très très belle distribution d'ailleurs. Donc tout de suite il y a ce passage assez naturel enfin qui se fait entre la production romanesque de Kessel et le cinéma. Et bon, je pense que le public les connaît, peut-être inutile de les rappeler, mais enfin, puisqu'on y est, autant le dire. Ça sera le cas, par exemple, pour L'Armée des Ombres, le grand roman de la Résistance, qui sera adapté. Alors, il y a souvent un décalage important entre l'écriture et la publication du roman et son adaptation. La Passante du Sans-Souci, il faudra attendre le début des années 80 pour qu'il y ait cette belle adaptation qui a été demandée, d'ailleurs, qui a été voulue par Romy Schneider elle-même. C'est elle qui a porté le projet d'adaptation de La Passante du Sans-Souci au cinéma. Mais vous évoquiez Belle de Jour, Le Lion. Alors, la fortune de ces adaptations est variée. Kessel lui-même n'a pas toujours été satisfait. Le Lion est un très bel exemple d'un film dont il considérera qu'il édulcore très très fortement son œuvre. Le Lion, comme d'ailleurs souvent, quand on la résume et quand on l'évoque, on l'édulcore un peu. C'est une œuvre assez complexe, assez dure d'ailleurs, assez complexe dans la manière dont elle va décrire les sentiments qui se nouent au cœur d'une famille. C'est pas l'histoire simplement de l'amitié entre une petite fille et un lion, etc. Bon, c'est une sorte de grosse peluche comme ça, toute gentille, pas du tout. Ce sont des relations très très complexes entre la fille, le père et la mère. Il y a un nœud familial très fort. Kessel sera très déçu par l'adaptation. Donc il y aura des fortunes variées jusqu'au Cavalier qui sera adapté aussi par Frankenheimer. Donc il y a vraiment un lien très très fort. Et pour citer aussi, pour revenir à cette édition, remarquer, vous l'avez sûrement noté, par exemple, on a reproduit ici un roman, Le Bataillon du Ciel, qui est un roman aussi de la guerre, mais de la fin de la guerre, du débarquement. C'est un roman dont on aurait pu se demander s'il avait sa place légitime dans l'édition de la Pléiade, dans la mesure où on sait, les biographes de Kessel l'ont dit, et les biographes, je dirais, du véritable rédacteur de ce roman, c'est-à-dire Maurice Druon, l'ont dit aussi. C'est Maurice Druon qui a fait la mise en roman de ce bataillon du ciel, mais en même temps, il l'a fait, cette mise en roman, à partir du scénario très élaboré, très avancé que Kessel avait rédigé pour le cinéma. C'est-à-dire, c'est un projet cinématographique, hein, au départ, hein, qui effectivement a donné lieu à un film. Et ce film aurait pu donner lieu à un roman de Kessel lui-même, et Kessel, je dirais, a sous-traité en quelque sorte, hein, la rédaction du roman à son neveu. C'est d'ailleurs une transmission d'oncle à neveu qui s'est fait de manière totalement inaperçu, puisque dans toutes les éditions du Bataillon du Ciel, seul le nom de Joseph Kessel apparaît, avec le remerciement à Maurice Druon. Mais voilà, mais on est aussi dans ce passage-là, dans ce que vous évoquiez tout à l'heure à propos des reportages, hein, c'est-à-dire dans ce processus d'écriture et de diffusion qui n'est pas propre à Kessel, hein, qu'on a chez de très nombreux auteurs au 19e ou 20e siècle, et qui joue, je dirais, d'une sorte de migration de médias à autres médias. Hein, bon, Kessel a beaucoup travaillé, bien sûr, la migration de ses écrits de presse, de ses reportages vers le roman, mais on a aussi ces exemples de migration, là, pour le coup, d'un scénario de films vers le roman. Hein, donc il y a toujours des stratégies à plusieurs coups, hein, où un projet d'écriture et de création est un projet qui effectivement va se trouver décliné en un certain nombre de productions appartenant parfois à des médias, à des dispositifs médiatiques assez variés. Mais bon, on évoquait les Cavaliers. Le projet de départ des Cavaliers, c'est aussi un film. Hein, il part en Afghanistan pour réaliser un reportage sur l'Afghanistan. Et surtout un reportage filmé, puisque à ce moment-là, il se dit, ben, c'est peut-être le film, hein, qui est, je dirais, l'avenir du reportage, autant, sinon plus, que l'écrit.
Donc ça, c'est en 1956.
C'est en 1956.
Pour La Passe du Diable, qui est, je crois bien me souvenir, une des premières, un premier voyage en fait de Kessel en Afghanistan. Et qui aboutira effectivement en 67 à ce qui est considéré comme l'un de ses chefs-d'œuvre romanesques, un long roman d'aventure, Les Cavaliers, qui est consacré à l'Afghanistan et au jeu du Bouskashi. C'est un roman assez singulier parce que c'est vraiment une épopée qui impose une galerie de personnages forts et donne aussi la part belle aux chevaux qui sont aussi conçus et présentés comme des personnages de romans à part entière. Je vous reposais la question que je vous ai posée pour Les Captifs. Est-ce que vous pouvez me représenter ce dernier roman qui est en fait le dernier roman de ce deuxième volume des romans et récits de la Pléiade, qui est aussi le dernier roman de Kessel publié 12 ans avant sa mort.
C'est ça. C'est le dernier roman de Kessel. D'ailleurs, dès sa sortie, il est un peu perçu comme une sorte d'œuvre un peu testamentaire déjà. Hein. Là, c'est très, très perceptible dans la critique, hein, on y voit une sorte de chef-d'œuvre, d'aboutissement du travail de Kessel. Lui-même le vit peut-être ainsi, on pourrait y revenir, hein, si on va évoquer le contenu même de ce roman. En tout cas, c'est un roman qui est d'abord d'ampleur beaucoup plus importante, hein, c'est un fort roman, hein, alors que Kessel avait souvent travailler sur des formats beaucoup plus réduits, à part Le Tour du Malheur que j'évoquais, qui est vraiment une sorte de saga ou de roman fleuve. La plupart du temps, on a des romans beaucoup plus courts. Là, on a un roman très ample, même si l'action est très concentrée, mais le roman est très ample lui-même. Et puis un temps d'écriture très très long aussi, puisqu'il commence à peu près en 1960-61 à l'écrire. Il finit de l'écrire en 67, vraiment en recorrigeant encore in extremis les derniers jeux d'épreuve tout à fait à la fin. Donc on a vraiment une écriture très très espacée dans le temps. Alors, pour le présenter, bah, je dirais que c'est vrai qu'il est devenu une œuvre relativement emblématique, puisque le coffret de la Pléiade qui entoure les deux volumes reproduit Les Cavaliers. C'est une magnifique photographie, c'est très effectivement photogénique, hein, ce jeu du Bouskashi qui consiste, pour des cavaliers très expérimentés, très courageux d'ailleurs, et très professionnels, hein, puisque ce sont des équipes vraiment très très entraînées et préparées à cela, à se disputer la carcasse d'un bouc ou d'une chèvre, à la traîner sur des kilomètres dans un galop effréné où tous les coups sont permis pour récupérer la carcasse en question, à faire le tour de deux poteaux pour finir par la déposer. Et bien sûr, le vainqueur est celui qui parvient à la déposer dans un cercle, hein, qu'on appelle le cercle de justice, et qui désigne finalement le vainqueur. Donc, au cœur de ce roman, Les Cavaliers, il y a ce jeu du Buzkashi. Mais finalement, c'est très réducteur de le ramener uniquement à ça, même si c'est vraiment ce qu'on a beaucoup retenu de ce roman et du film lui-même. Mais je voudrais peut-être, dans un premier temps, puisque vous l'évoquiez, dire à quel point, même si Kessel a beaucoup voyagé, même si Kessel, effectivement, a bourlingué, il a parcouru l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, je crois qu'avec l'Afghanistan, il le dit d'ailleurs, et puis toutes les traces sont là pour le prouver, avec l'Afghanistan, un lien très particulier quand même se crée. Il y a vraiment une sorte de coup de cœur, de passion afghane hein, qui va s'emparer de Kessel. Il va y revenir à plusieurs reprises, pas seulement revenir sur la matière afghane, je dirais, hein, qui va constituer le sujet de sa production, mais revenir dans le pays, se nouer des amitiés extrêmement fortes avec un certain nombre de personnalités, y compris au plus haut niveau, c'est-à-dire avec le roi d'Afghanistan, Zahir Shah. Donc il y a vraiment une histoire très forte qui se noue entre Kessel et ce pays de l'Afghanistan, et qui est sa grande passion finale, hein, puisque, comme vous le disiez, bon, c'est le grand roman de la fin de Kessel. Ensuite, il y aura quelques productions de reportages. Et puis ensuite, il y aura un moment où il y aura de plus en plus de difficultés à écrire. Hein. C'est vraiment le dépose, en quelque sorte. J'ai l'impression que le reporter pose son sac et l'écrivain va poser sa plume après ce roman. Donc, il y a vraiment une relation très forte qui se noue avec le pays. Mais le point de départ, c'est ce projet d'un film de reportage, d'un film documentaire sur l'Afghanistan. Alors, ils partent comme... les biographes l'ont beaucoup raconté, comme lui-même l'a beaucoup raconté par la suite. Ils partent avec une petite équipe, pas très expérimentée, hein, mais avec des gens qui vont devenir ensuite des grands noms du cinéma. Raoul Coutard, qui sera un des grands opérateurs de la Nouvelle Vague. Schindorfer aussi, qui aura une carrière cinématographique. Tout cela financé par Georges de Beauregard, qui est un producteur, qui sera aussi le producteur des films de Godard et d'autres cinéastes de la Nouvelle Vague. Ils partent sans idée préconçue et sans scénario, je dirais, très fortement établi. Ils vont se fixer sur ce jeu du Buzkashi qui constituera le cœur de leur reportage filmé. Et puis, ils vont découvrir l'Afghanistan et Kessel découvre l'Afghanistan, sa multiplicité culturelle, les différentes ethnies, les différents paysages. Et tout ceci donne, comme vous le disiez, un magnifique film. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'on puisse le voir et le diffuser aujourd'hui. J'ai eu la chance de le voir pour préparer cette édition de la Pléiade. La Place du Diable, c'est vraiment un très, très beau film. C'est un très beau film avec de magnifiques paysages, avec une image absolument superbe, qui est entièrement tournée, je dirais, habitée par des acteurs locaux, des cavaliers hein, que Kessel a pu repérer sur place et auxquels il a demandé de jouer les personnages de son film. Et en même temps, qui repose, et ça c'est intéressant quand même dans la conception que Kessel se fait du reportage, qui repose sur une fiction, hein, puisqu'il va inventer une histoire, va se contenter de filmer un match, je dirais, ou un jeu du Buzkashi. Il va inventer toute une histoire et on va suivre les personnages avec la voix off de Jean Negroni qui raconte un magnifique texte, qui dit un magnifique texte sur l'Afghanistan. Et ça, c'est vraiment le point de départ. Ça aurait pu en rester là. Hein, il écrit le film, on tourne le film, c'est compliqué, enfin, on finit par le tourner, le film est diffusé, il n'a pas beaucoup de succès, il va vite tomber dans l'oubli, malheureusement. Kessel publie quelques reportages dans François, hein, comment j'ai fait tourner Les Fils de Gengis Khan, hein, qui est une sorte de making-of du film, il raconte simplement comment il a fait le film. Il prépare d'ailleurs un livre de reportages, comme il le fait toujours, c'est ce que j'évoquais, cette stratégie à plusieurs coups. Hein. Il écrit également un livre de reportages sur l'Afghanistan qu'il garde en réserve, il veut toujours un petit peu garder en réserve sous le coude pour publier un petit peu plus tard, et ça aurait pu en rester là. Manquer tout de même le roman. Puisque souvent, dans ces stratégies d'écriture, il y avait aussi la fiction qui venait se nourrir. Et Kessel a un projet de roman. Ça aurait pu être un projet de roman autour du Buzkashi. On va mettre en roman, finalement, la fiction, qui la petite fiction, hein, qui sert de trame au reportage lui-même. Au fond, on va raconter... bon, des cavaliers qui se disputent, et puis il y en a un qui va l'emporter sur l'autre, et puis à la fin, le vainqueur sera célébré. Ça pourrait faire une belle histoire, si vous voulez. souvent, c'est malheureusement un peu à ça qu'on limite la lecture des Cavaliers. Or, en réalité, ça ne fait que le tout début des Cavaliers, et Kessel, me semble-t-il, Kessel est peut-être un peu dépassé par son projet. Il le dit lui-même. Il y a un moment où, tout d'un coup, les personnages vont prendre une sorte d'autonomie. Beaucoup de romanciers évoquent ce processus-là. Et au fond, c'est une autre histoire dans laquelle Kessel va se lancer, une autre quête. Il va inverser, au fond, totalement l'itinéraire des Cavaliers. Le Buscashi n'est plus l'aboutissement, mais le point de départ. Et ce qu'il nous raconte dans Les Cavaliers, ce n'est pas le triomphe d'un cavalier héroïque qui remporte le jeu, mais au contraire, c'est la défaite, la blessure, c'est l'échec, c'est la honte, c'est l'humiliation, puisque le personnage principal se casse la jambe. Et la trame des Cavaliers, c'est une sorte, c'est pas l'Iliade, c'est plutôt l'Odyssée, je dirais. Hein, c'est le retour difficile chez lui du héros, alors non pas vainqueur comme dans l'Odyssée, mais du héros vaincu. En plus, il n'y a pas beaucoup, aucune Pénélope ne l'attend. L'attend simplement la figure écrasante de son père, hein, qui est une ancienne gloire du Buscashi, une légende. Hein. Et donc, ce héros blessé, humilié, bientôt amputé hein, d'une partie de sa jambe, effectue ce lent retour au pays natal, hein, à travers les montagnes de l'Hindou Kouch, et on va retrouver tous les grands paysages que l'on avait dans la Passe du Diable, mais cette fois-ci dans cette sorte de retour difficile au pays. C'est une épreuve particulièrement forte, mais je dirais à travers laquelle le personnage va au bout de lui-même, hein, va puiser au fond de lui-même dans une sorte de quête d'identité. Et finalement, tous les personnages des Cavaliers sont engagés dans cette quête d'identité. Il me semble, entre nous, hein, bon, je dirais que bon, c'est une hypothèse de lecture, hein, mais il me semble que Kessel lui-même, tout au long de ces années, est aussi engagé dans cette sorte de quête. Il accompagne ses personnages dans leur quête. Et je crois que lui-même, au fur et à mesure de l'écriture des Cavaliers, ne sait pas exactement où ils vont, ni où il va. Hein. C'est-à-dire que cette révélation que eux-mêmes vont trouver à l'extrême fin du roman, lui-même va la trouver avec eux, et le lecteur aussi. Ce à quoi j'ai été très très sensible en relisant ce roman, c'est à quel point, en accompagnant les personnages, contrairement à ce qui se passe souvent, hein, bon, personnage traverse des épreuves, bon, on se doute qu'il va rentrer chez lui, que, etc., etc. Mais bien sûr, mais ça suffit pas. Et jusqu'au bout des Cavaliers, on est vraiment pris par ce désir de savoir vraiment où ils vont aller, et de petits rebondissements en petits rebondissements, jusqu'à la fin, on est suspendu à la décision finale qui finit finalement par nous surprendre. J'ai rapproché, je ne sais pas si vous seriez d'accord là-dessus, mais j'ai rapproché ce roman de la manière dont Jacques Rivière définissait le roman d'aventure. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'aventure pour Kessel. Mais pour Rivière, le roman d'aventure, c'est celui dans lequel l'avenir n'est jamais contenu dans le présent ou dans le passé. C'est celui dans lequel quelque chose peut toujours advenir. Et c'est ce qui m'a paru très très fort dans Les Cavaliers. C'est-à-dire que quelque chose peut toujours advenir. Puis évidemment, bon, ce sont les péripéties classiques d'un roman. Mais en même temps, on ne sait jamais exactement ce qui va advenir et on l'attend jusqu'à la fin.
C'est la question que je voulais vous poser, c'est surtout la part de Kessel, en fait, dans cet ouvrage-là, puisque dans toutes ses œuvres, il s'inspire soit de choses qu'il a vécues lui-même, soit de ses expériences de reportage, des rencontres qu'il a fait. Or, Les Cavaliers, c'est pas juste, comme vous disiez, juste inspiré de ce qu'il avait vu en faisant la Passe du Diable. Et c'est un faux roman d'aventure qui tend surtout à être un grand roman de la construction de soi. On l'a dit, donc publié en 67, quelle fut la réception critique de l'ouvrage, sachant qu'il est académicien depuis 5 ans, c'est 9 ans après le succès du Lion, qui a été un succès considérable, et en même temps, c'est presque un roman crépusculaire, comme vous l'avez dit, puisqu'on se doute que ce sera finalement la dernière grande, oui, grande œuvre de l'auteur.
Alors, la réception critique, elle est très positive, hein, je vous le disais, presque trop. J'ai cité un critique qui dit on ne peut qu'encenser. Enfin, il y a tout dans ce roman. Hein. Il y a des paysages, il y a l'action, il y a de l'aventure, il y a de l'héroïsme, etc., etc. Bon, voilà. Inclinez-vous. Enfin, la messe est dite. Le critique n'a plus à se prononcer, ce qui n'est pas vrai. Ce qui m'a frappé dans la réception critique, c'est de voir à quel point, je l'ai bien mesuré en parcourant tous les journaux de l'époque, à quel point le paysage critique de l'époque est vraiment clivé. On est, vous le disiez, en 1967, on est vraiment en plein dans la querelle entre les anciens et les modernes. C'est-à-dire que, il y a ceux qui disent « Ah, enfin, un roman d'aventure !» J'ai envie de dire un roman à l'ancienne, avec des grands sentiments, des grands paysages et de l'action. Et puis ceux qui disent « Oui, bon, d'accord, mais tout ça, c'est du romanesque, ça nous endort, il n'y a pas de renouveau des formels, si vous voulez. » Bon, c'est quand même l'année 67 où Butor, c'est l'année de Ricardou pour un nouveau roman. Bon, c'est l'année du fameux chiasme où, effectivement, comme il l'écrit, l'écriture d'une aventure va être remplacée par l'aventure d'une écriture. Bon, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette époque-là. Les critiques se situent par rapport aussi à ces enjeux-là. Je dirais que la réception critique de Kessel, elle est prise dans ces enjeux. Même un critique qui dit, je cite de mémoire, sa phrase est mieux tournée que le souvenir que j'en ai. Mais heureusement qu'il y a du Kessel pour nous libérer un peu du robe grillée. C'est un peu ça. C'est dans quel camp êtes-vous ? Est-ce que vous êtes encore du côté de Kessel ou est-ce que vous êtes déjà du côté de robe grillée ? Donc la réception critique est fortement marquée par ça, même si des lecteurs finalement, laissant un peu de côté ces querelles, un petit peu de chapelle, au fond, se penche sur cette notion d'aventure et de renouveau du roman d'aventure, et voit dans le roman de Kessel, au-delà des querelles du temps et de circonstances, voit dans le roman de Kessel une sorte de renouveau du roman d'aventure. Kessel lui-même était peu sensible à ces questions de ces débats, de ces questions de chapelle, ces questions de forme. Donc, non. Mais la réception critique est très bonne et le succès sera effectivement tout à fait au rendez-vous. D'ailleurs, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir à quel point il participe. Alors, dans quelle mesure il contribue-t-il, je n'en sais rien, mais de voir à quel point lui-même participe d'une mode afghane qui s'installe à ce moment-là. Bon, c'est une période hippie, l'Afghanistan, c'est une étape importante, je dirais, sur le chemin de Katmandou, si vous voulez. Il y a dans les années 60 et 70, puisque Kessel va revenir à plusieurs reprises en Afghanistan, et donc notamment, on a cité en complément des cavaliers, j'ai reproduit un article du magazine Elle, qui réalise un reportage de mode en Afghanistan, qui est magnifiquement photographié aussi, avec une mode afghane tout à fait représentative des années 70, et avec un beau papier de Kessel sur cet Afghanistan qu'il retrouve avec difficulté, parce qu'il sent bien en 70 qu'on n'est déjà plus dans l'Afghanistan qu'il a connu à la fin des années 50. Et c'est peut-être aussi ce qui a beaucoup frappé beaucoup de lecteurs, enfin beaucoup d'écrivains ou de journalistes, sont revenus sur ce roman des Cavaliers. Je pense à Christophe de Pontfilly ou d'autres, souvent pour souligner le fait que, au fond, Kessel avait laissé l'image d'un pays tel qu'il ne sera pas plus, puisque très rapidement, au cœur des années 70, l'Afghanistan va basculer en coup d'État, invasion, multiples guerres internes qui en font l'Afghanistan que l'on connaît encore aujourd'hui. Donc c'est un Afghanistan d'autrefois que Kessel a fixé à travers la peinture des Cavaliers. Et en même temps, comme vous le disiez, les personnages sont afghans, mais bon, comme Mauriac disait, Thérèse Esquerou, elle est landaise, mais elle est aussi suédoise, japonaise, elle est partout où une femme souffre. C'est la même chose aussi, je crois, pour les cavaliers.
Oui, ce qui en fait son universalisme. Et pour conclure, puisque l'heure tourne, j'aimerais avec vous évoquer l'héritage laissé par Kessel, puisqu'il a fait naître de nombreuses vocations chez des journalistes, chez aussi beaucoup d'écrivains, dont son influence est encore palpable. Je pense notamment au prix Joseph Kessel, qui est un prix littéraire qui a pour vocation de récompenser un journaliste ou un écrivain qui se situe dans une filiation de Joseph Kessel. Parmi les lauréats du prix, on retrouve Florence Aubenas ou Olivier Weber. Est-ce que pour vous, voilà, il y aurait des auteurs ou des journalistes qui seraient pas, alors pas des nouveaux Joseph Kessel, parce qu'à priori, on peut pas être un nouveau Joseph Kessel, ça aurait pas forcément beaucoup d'intérêt, mais est-ce qu'il n'a pas, justement, à sa manière, un peu permis, justement, d'exploser en fait les frontières, les barrières, en disant oui, on peut faire du journalisme et être écrivain aussi, on peut faire les deux en même temps, et on peut être un écrivain journaliste, hein, faire du reportage, en tout cas faire du reportage comme un écrivain le ferait.
Alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr, et je dirais que cette tentation de, comme vous disiez, de faire exploser un petit peu les frontières, ou en tout cas, plus que les frontières, je dirais la hiérarchie, hein. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on considère dans l'espace public, hein, qu'il y a plusieurs niveaux d'écriture, hein, et que le journalisme, le reportage, c'est une écriture de premier niveau, et que la littérature sera une écriture d'un niveau supérieur. Hein. Cette hiérarchie-là, je dirais qu'elle est, elle est très ancienne, et, c'est-à-dire dès que la presse apparaît, dès que la presse se développe au 19e siècle, il y a déjà cette concurrence entre deux modes d'expression dont on craint que celui qui apparaît remplace celui qui est en place, mais en même temps dont on considère aussi que celui qui apparaît est nécessairement inférieur à celui qui est en place. D'un côté, l'écriture de l'éphémère, de la précarité, du vite fait, du quotidien, et puis de l'autre, le point de vue surplombant, l'éternité, le style, l'écriture, le recul, etc. etc. Donc cette hiérarchie-là, bien évidemment, tous ceux qui ont travaillé dans la presse ont tenté de l'inverser ou de la subvertir, et d'ailleurs le fait que beaucoup aient toujours eu ce souci de donner une seconde vie ou une troisième vie à leurs textes de presse en les faisant accéder aux livres s'inscrivait dans cette volonté-là. Et tous ceux qui y sont parvenus ont toujours été pris pour des modèles ou des exemples justement du bon chemin. Proportion gardée, mais dans un autre domaine, le fait que des chroniqueurs d'aujourd'hui, comme Philippe Lançon par exemple, se reconnaissent de Mauriac et de ses chroniques, relève, je dirais, de cette volonté-là. Et beaucoup de ceux qui effectivement se reconnaissent dans Kessel se reconnaissent aussi dans quelqu'un qui a su inverser cette hiérarchie, ou en tout cas faire éclater cette hiérarchie. Vous en avez cité un certain nombre d'exemples. C'est plutôt du côté, effectivement, je crois, pendant longtemps, du côté des reporters, hein, que cette filiation Kessel a pu s'exprimer. Je dirais Kessel parce que c'était aussi une figure encore visible du grand reportage. Les grands reporters des années 50 ou des années 20 et des années 30, malheureusement, ont disparu du paysage parce qu'ils n'ont pas eu cette possibilité d'accéder à la postérité, sauf peut-être Albert Londres, hein, qui, sans passer par la fiction et la littérature, a pu rester, et dont l'œuvre a pu rester. Mais les Roubaud, les LC, les grands modèles, bon, Béraud, mais pour des mauvaises raisons, si vous voulez, mais voilà, ont disparu. Donc Kessel a pu, lui aussi, grâce à sa notoriété, bon, puis en même temps, académicien, le cinéma, vous dire, il y a énormément de choses qui ont pu lui permettre de rester le reporter qui effectivement reste. Moi, ce qui m'intéresse, on peut comprendre que tous les grands reporters s'inscrivent, et vous en avez cité un certain nombre, dans l'héritage en quelque sorte de Kessel. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir des écrivains qui aujourd'hui s'inscriraient dans cet héritage-là, parce que c'est un héritage qui, pendant un certain temps, a pu être contesté, justement. Est-ce que l'écriture de Kessel était une écriture fondatrice d'une modernité, ou en tout cas qui pouvait elle aussi prétendre à un héritage comme les grands écrivains rénovateurs de forme des années 60-70 ont pu accéder à un certain héritage? Et si vous le permettez, j'ai justement lu dans Télérama cet après-midi, donc qui vient de sortir, un écrivain comme Olivier Guez, donc qui a publié La disparition de Joseph Mengele. Voilà, on lui demandait quelles étaient dans Télérama quelles étaient les figures tutélaires dans lesquelles il se reconnaissait, et il citait Kessel, Hemingway, Joseph Roth. Il le cite à plusieurs reprises, pour lesquels se confondent, dit-il, littérature et périple. Alors, c'est une autre, peut-être une autre filiation. Il y a littérature et reportage, littérature et voyage aussi. La littérature de voyage aussi a beaucoup contribué à faire évoluer nos catégories. Et il posait cette question, est-ce que je voyage pour écrire ou est-ce que j'écris pour voyager, hein? Mais voilà, c'est une, ça me paraît très significatif que cet après-midi même, ce soit du côté des écrivains d'aujourd'hui. On pourrait penser à Mathias Sénard ou à d'autres écrivains, à des écrivains qui effectivement s'inscrivent aussi dans cette filiation de l'écrivain ouvert sur le monde, de l'écrivain voyageur. Donc pour répondre peut-être ou pour essayer de répondre à votre question.
Merci beaucoup Philippe Baudor.
Merci à vous.